Billet Éco. Bonjour Anne-Laure Jumet.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
Et vous nous parlez ce matin de la lutte contre les discriminations à l'embauche, un sujet évoqué par Emmanuel Macron hier soir sur fond de manifestations contre le racisme et contre les violences policières.
Trop souvent, le nom, l'adresse, la couleur de peau réduisent les chances que chacun doit avoir. Voilà les mots hier du président de la République qui a promis d'intensifier le combat en matière de lutte contre les discriminations. Cela fait des années que nos dirigeants tournent autour de cette question. Comment faire en sorte que les entreprises ne délaissent pas à compétences égales les candidatures de personnes dont les noms sont à consonance étrangère ou n'habitent pas dans les bons quartiers? On se souvient notamment de l'échec du CV anonyme qu'une loi de 2006 avait pourtant rendu obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés, une mesure jamais appliquée. Et sur ce sujet, on en est encore au stade du constat. Le ministre de la Ville a ainsi annoncé hier un nouveau testing. Pardon pour cet anglicisme, mais la méthode vient des pays anglo-saxons, ne faisant d'ailleurs que rappeler ce qui était déjà connu depuis le mois dernier. On rappelle le principe, 2 CV sont envoyés pour répondre à une candidature. Ils sont identiques, à ceci près que le nom n'est pas le même. Dans le premier audit réalisé à la demande du gouvernement, était présenté un CV avec un patronyme à consonance maghrébine, un autre à consonance entre guillemets française. La discrimination à l'embauche avait ainsi été démontrée et 7 entreprises sur les 40 testées avaient vu leur nom exposé. Parmi elles, Renault et Air France, 2 entreprises dont l'État est actionnaire, ou encore le groupe hôtelier Accor, déjà épinglé par le passé.
Bon, les désigner ainsi a-t-il fait évoluer les comportements ?
Alors, c'était effectivement l'objectif, inciter ces entreprises à changer leur procédure de recrutement. C'est ce qu'on appelle plus largement le name and shame, une pratique qui nous vient aussi du monde anglo-saxon, littéralement nommer et couvrir de honte, autrement dit jouer sur la réputation des entreprises, alors que les sanctions, elles, ne peuvent intervenir qu'à l'issue d'une action en justice. Mais pour l'instant, le procédé n'a pas vraiment démontré son efficacité. D'abord, le gouvernement a mis du temps à publier les noms de ces entreprises. Il disposait des résultats depuis pourtant 9 mois. Et puis surtout, les sociétés épinglées ont dénoncé la méthodologie employée. Une partie de ces CV ont été envoyés dans le cadre de candidatures spontanées et ne sont pas passés par le filtre des directions des ressources humaines. Les résultats ont donc été biaisés, ont-elles estimé. Les mauvais élèves ont donc été plutôt dans la contre-offensive, avec un certain succès d'ailleurs, puisque le deuxième audit devrait tenir compte de leurs observations. Tout récemment, on a aussi appris que les entreprises mises à l'index allaient se voir proposer une journée de formation avec le cabinet Mosaïque RH, une journée payée par l'État pour déconstruire les stéréotypes. On a vu plus contraignant.
Bon, mais le gouvernement a-t-il d'autres mesures en tête pour lutter contre les discriminations, Anne-Laure ?
Oui, un plan global est en cours de préparation. Emmanuel Macron a d'ailleurs annoncé hier de nouvelles décisions fortes en la matière, dans les tuyaux notamment, une relance des emplois francs, un dispositif qui accorde des aides aux entreprises, qui embauchent des personnes résidant dans les quartiers prioritaires de la ville. Après une première phase d'expérimentation dans certaines zones, ces emplois aidés ont été généralisés à tout le territoire le 1er janvier dernier. Entre-temps, il y a eu un coup d'arrêt avec le confinement, il faut donc relancer la machine. Le gouvernement planche aussi sur la lutte contre les discriminations. En matière de logement, pour l'instant, on ne parle que de formation obligatoire dans le cadre du renouvellement de la carte professionnelle d'agent immobilier. En cours d'élaboration également, un guide de bonnes pratiques qui sera publié dans les entreprises. Pour les administrations, on attend d'ailleurs encore des préconisations. Entre sensibilisation, incitation financière et atteinte à la réputation des entreprises, le gouvernement cherche donc le bon dosage face à un sujet connu de longue date, mais sur lequel, il faut le reconnaître, on peine encore à progresser.
Merci Anne-Laure Jumet pour ce billet éco.